Donc, je suis maître de conférence en sciences du langage à l'ESP. Donc, j'interviens essentiellement dans la formation des professeurs des écoles, un petit peu moins dans le second degré, essentiellement sur la question de l'enseignement à des élèves qui sont allophones. Bon, la présentation qui a été faite tout à l'heure met bien en évidence que c'est une problématique assez importante dans le département. Donc, je vais essayer de faire écho à ce qui a été présenté juste avant. Mais moi, je vais plus me focaliser sur la question du plurilinguisme et moins sur la question de la langue française. Je vais revenir un petit peu sur la question de la situation sociolinguistique dans le département, qui a été présentée, mais de manière un peu succincte. Je vais plus rentrer dans les détails. Je vais essayer de mettre en évidence les hiérarchies qui existent, les implications que ça a en termes d'inégalités scolaires. Et ensuite, je vais terminer sur la question des pratiques des enseignants au regard des discours institutionnels, pour montrer que finalement, même si on a des discours qui parfois brident un petit peu l'utilisation du plurilinguisme, les enseignants, eux, dans leur pratique, font tout un tas de choses qui sont très intéressantes à observer. Et je terminerai sur la question de la formation. Éventuellement, si vous avez des questions aussi sur ce qu'on fait en formation pour les enseignants en Guyane, je pourrais éventuellement répondre après cette présentation. Donc en général, je commence par dire que la Guyane, c'est une situation méconnue, mais comme on a eu déjà une présentation, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, peut-être revenir sur certaines choses qui ont été dites. Donc on a effectivement en Guyane une situation avec 75% des enfants qui ne parlent pas le français avant d'arriver à l'école, et là, sinon qui sont pour la plupart bilingues ou plurilingues. Aussi au niveau des indicateurs nationaux, on est systématiquement dans les derniers, hein, les derniers de la classe. Les 47% des chômeurs sont des moins de 20 ans, au moins de 25 ans. 38% des moins de 25 ans sont hors du système scolaire sans diplôme, hein, ce qui est quand même assez inquiétant. Donc on a un taux d'échec scolaire qui est assez important. Là, j'ai pris à titre d'exemple les évaluations CE1. Qui sont un peu anciennes, hein, mais c'était juste pour donner un exemple. 43% des élèves ont des acquis insuffisants en français contre 7% à l'échelle nationale. Donc la question... Ah, je vais peut-être rapprocher le micro comme ça, ça va ? Okay. Donc la question de l'échec scolaire, la question de l'école, c'est un enjeu majeur, hein, pour le département. Et je dis évidemment pas que le plurilinguisme est l'explication unique. Maintenant, la manière dont on traite le plurilinguisme constitue une des hypothèses à cet échec scolaire. Maintenant, il y a plein d'autres facteurs, les conditions socio-économiques. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces aspects-là. Moi, je vais rester sur ma partie qui est la question du plurilinguisme. Alors, je vais resituer un petit peu le contexte de la Guyane dans l'outre-mer français. C'est-à-dire que là, je vais revenir après sur le terme de langue de France pour vous expliquer pourquoi je l'emploie. On a 47 des 75 langues de France qui sont parlées dans l'outre-mer français. Donc il y a une grande diversité linguistique dans cet outre-mer. La Guyane arrive en deuxième position avec 10 langues qui sont considérées comme langues de France, derrière la Nouvelle-Calédonie où il y a une vingtaine de langues, mais qui sont toutes des langues kanak, alors qu'en Guyane on a une très grande diversité. Là encore, je vais revenir après là-dessus. Et très souvent, quand on regarde la situation guyanaise, on regarde uniquement cette question des langues de France ou des langues du territoire, mais on oublie qu'à côté de ces langues, il y a aussi toutes les langues de migration. Et donc là, si on regarde, en faisant juste Polynésie, Guyane, Nouvelle-Calédonie, on va voir qu'à côté de ces langues, on a de ces langues dites de France, on va avoir un certain nombre de langues qui sont issues de mobilités proches, c'est-à-dire les pays ou les îles voisines dans certains cas. Et puis on a des langues qui sont aussi issues de mobilités plus lointaines. Donc si vous regardez la Guyane, hein, 250 000 habitants, et là vous n'avez pas toutes les langues. C'est-à-dire qu'on a vraiment une très grande diversité linguistique pour un territoire où il y a finalement peu de monde et où tout le monde habite à peu près au même endroit. Donc on a vraiment une situation de contact linguistique au quotidien. Juste pour vous donner une petite idée sur les questions de mobilité, donc je vais revenir après sur les langues dites du territoire. Donc là, on voit bien que les migrations, elles ne sont pas récentes. Donc elles ont été, depuis le 18e, c'était des migrations qui étaient planifiées, puisqu'un des grands enjeux politiques en Guyane, c'était de peupler le territoire. Il fallait occuper le territoire. Donc il y a eu tout un tas de migrations qui étaient des migrations planifiées. Donc À titre d'exemple, jusque dans les années 70 d'ailleurs, vous avez le Laos qui est présenté là dans une flèche en bleu. Donc là, c'est les Hmong qui, au moment, c'est la période des Boat People, qui ont été envoyés par la France pour être agriculteurs en Guyane. Donc là, on les a envoyés hein, pour le coup sur le territoire. Voilà, donc vous avez tout un tas de groupes comme ça qui sont arrivés suite à des migrations planifiées. Et puis après, depuis, il y a eu de la migration non planifiée dans les, au siècle dernier, enfin, ou deux, j'oublie toujours qu'on est au 21e. Donc au 19e, il y a eu des migrations non planifiées qui étaient liées à la ruée vers l'or. Il y a beaucoup d'orpaillage, beaucoup d'or en Guyane, mais. Bref, ça c'est un autre débat. Et après, depuis les années 1980, on a c'est les plus grosses flèches que vous voyez sur la carte. On a toutes les migrations non planifiées récentes qui correspondent aux grands groupes de migrants que je vais présenter juste après. Donc là, on voit diversité linguistique qui est liée effectivement à toutes ces migrations, mais qui était déjà existante en Guyane en dehors de ces migrations-là du fait de l'histoire particulière de ce territoire. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc là, ce n'est pas toutes les langues parlées en Guyane, c'est celles qui sont parlées par plus de 1% de la population. Si on rentrait dans les moins de 1%, on arrive à des chiffres beaucoup plus importants. Et ce graphique, donc ça c'est une enquête qui a été menée dans toutes les classes de CM2 de Guyane de 2001 à 2011. Donc en gros, on a la génération des 10-20 ans. Évidemment, si on faisait cette même enquête sur les générations précédentes, on n'aurait peut-être pas du tout les mêmes résultats. Ensuite, vous avez à droite L1, L2, L3, L4, L5. C'est pas d'abord ils ont appris L1, ensuite ils ont appris L2, ensuite ils ont appris L3. L1, c'est les langues premières et il peut y en avoir plusieurs. Donc dans le graphique, en fait, dans certains cas, il y a deux ou trois langues premières qui étaient parlées. Langues premières, c'est-à-dire les langues parlées avant la scolarisation, les langues dans lesquelles les enfants étaient socialisés. Et ensuite, les L2, L3, L4, c'est dans l'ordre dans lequel les enfants ont donné les autres langues parlées. Donc ce n'est pas forcément un ordre d'acquisition. Donc en bleu, vous avez les langues premières. Il peut y en avoir au pluriel, donc il peut y en avoir plusieurs. Vous constatez que le français occupe une place importante dans les répertoires, majoritairement quand même en tant que langue seconde ou troisième. C'est normal, on est en CM2. Les enfants, ils sont à l'école. Donc le français, il fait partie de leur répertoire en tant que langue seconde, troisième, quatrième. Il est assez présent en tant que langue première, mais très rarement en tant qu'unique langue première. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les enfants qui déclarent parler le français avant d'aller à l'école, en général, ils ont une autre langue à côté comme première langue de socialisation. Je crois que le créole a été évoqué tout à l'heure. C'est effectivement très souvent le cas, créole et français, mais il y a d'autres langues qui sont concernées. Donc, dans la partie qui est au-dessus, je vais présenter un petit peu les langues. Dans la partie qui est en haut du graphique, vous avez de Wayampi à Kalinia les langues amérindiennes. Donc il y en a 7 qui sont parlées, il y en a 6 qui apparaissent ici. Donc majoritairement ici parlées, déclarées en tant que langue première. Donc ça correspond à 3 familles linguistiques. J'insiste un peu sur la diversité assez exceptionnelle qu'il y a. On a le Hmong que j'ai évoqué tout à l'heure. Ensuite vous avez Saamaka et Nengue. Ça ce sont des créoles à base lexicale anglaise. Et le Saamaka est un créole à base lexicale anglo-portugaise. Donc ce sont des langues créoles, mais à base lexicale anglaise ou anglo-portugaise. Et ça correspond à une population qu'on appelle, je crois que le terme Bushinenga a été employé tout à l'heure, c'est les noirs marrons, c'est-à-dire ceux qui étaient esclaves et qui ont marronné, qui se sont échappés des plantations, qui sont partis vivre, en fait, alors qui étaient au Suriname et qui progressivement sont arrivés vers la Guyane. Donc le Suriname, c'est un pays voisin. Donc ensuite, on a le créole guyanais, donc créole à base lexicale française. Le français, je l'ai déjà présenté. Puis après, vous avez une série de langues de migration, donc le néerlandais, l'espagnol. Donc on a des langues romanes, des langues germaniques, d'autres créoles à base française, martiniquais, haïtien, guadeloupéen. Le sranantongo, qui est aussi un créole à base lexicale anglaise, qui est la langue véhiculaire au Suriname. Alors, le chinois est assez peu présent dans les résultats. Ça, c'est une des questions qu'on se pose, parce qu'en fait, ça correspond à une population migrante assez importante, mais on n'arrive pas à la trouver dans les enquêtes. Donc, on ne sait pas où sont les enfants. Mais a priori, ils seraient beaucoup dans des écoles privées. Mais bon, voilà, c'est peut-être le biais de l'enquête là-dessus. Donc, le portugais du Brésil, vous voyez qu'il y a quand même une part assez importante de locuteurs. Et l'anglais, qui majoritairement vient du Guyana, qui est donc après le Suriname. Donc voilà, ça c'est en gros le tableau des langues qu'on va retrouver de manière assez récurrente dans la plupart des classes. Alors selon les zones géographiques, ça peut être assez variable. Et vous voyez qu'il y a certaines des langues qui sont un peu plus mises en avant. Parmi celles-ci, il y en a qui sont véhiculaires. Donc dans les véhiculaires, on a le nengue, le créole guyanais, le français et le portugais. Mais pas partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'à la frontière avec le Brésil, le portugais va plus jouer un rôle véhiculaire. À la frontière avec le Suriname, le nengue et ainsi de suite. Voilà. Donc derrière tout ça, il y a des fonctions aussi, différentes fonctions des langues. Alors, cette grande diversité linguistique, on va la retrouver dans les classes, forcément. Et là, je fais juste un exemple avec une classe. Là, on est à l'école Savane, à Kourou. Et donc, si on regarde que les langues premières, ce qui se fait souvent, quand on s'intéresse aux langues, on regarde que les langues premières et on s'occupe pas du reste. Si on regarde que les langues premières, effectivement, il y a 13 langues parlées. 13 langues premières parlées, c'est déjà bien. Mais si on regarde les langues premières, les langues secondes, troisième, quatrième, et qu'on rentre finalement dans le plurilinguisme des élèves, là on arrive à 20 langues différentes. Et on peut se poser la question de ces compétences plurilingues qu'il y a derrière toutes ces langues-là. C'est-à-dire que si je vous dis que je parle anglais, c'est pas vrai, mais anglais, français, allemand, italien, que je suis plurilingue dans toutes ces langues-là, ou si on dit ça d'un élève, a priori on va avoir plutôt une représentation positive de ce plurilinguisme. En Guyane, je ne sais pas comment c'est dans l'Hexagone par rapport à d'autres langues, mais je ne doute pas qu'il y ait des choses assez similaires. Si on parle français, kalinya, créole, esranan, tongo, on va dire « Ouh là là, il va avoir des difficultés à l'école, cet élève ». Voilà, donc je pose déjà un petit peu le problème, hein, c'est qu'effectivement, les compétences, elles sont exactement les mêmes. Donc normalement, on devrait avoir les mêmes résultats, mais on voit bien qu'il y a des difficultés qui se posent, et du coup, on peut peut-être questionner le pourquoi de ces difficultés-là. Alors j'ai présenté un peu le plurilinguisme, mais je vais donner la parole aux enfants pour donner des exemples de ce plurilinguisme de manière un peu progressive, c'est-à-dire on va regarder dans un premier temps, donc c'est l'image de gauche, le plurilinguisme vu uniquement sous l'angle des langues premières, et on va voir qu'il peut y avoir, enfin, ou les langues de la famille dans l'exemple qui est donné là. Dans le deuxième exemple, donc on est dans les classes de CP dans les deux cas. Dans le deuxième exemple, on va voir un autre aspect du plurilinguisme, c'est le fait que quand on parle plusieurs langues, il y a parfois des pratiques de mélange de langues, et donc c'est dans les discours des enfants. Et ensuite, on verra le plurilinguisme plutôt en termes de dynamique temporelle, c'est-à-dire comment il évolue dans le temps, et enfin en termes de dynamique spatiale, c'est-à-dire que le plurilinguisme il va s'actualiser différemment selon les endroits où on est. Donc là, on part à Kourou, dans une classe.
Ta mère, elle parle deux langues, qu'est-ce qu'elle parle ?
Elle parle l'espagnol, elle parle l'espagnol, et le brésilien.
D'accord. Sarah Maca. Sarah Maca à la maison.
Sarah Maca aussi. Et Sarah Maca. Parfois, moi, je parle hollandais. Parfois, je parle hollandais, le coulis.
C'est maman qui parle.
Et moi je parle hollandais. Le créole. Le brésilien
avec qui?
Ma mère, mon père, ma soeur et mon frère.
Avec
qui? Moi je parle espagnol.
Et puis votre fille à côté, qu'est-ce que tu parles?
Brésilien.
Voilà, donc premier exemple. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est à Kourou. Donc tout à l'heure, ça a bien insisté sur le fait que le plurilinguisme existe partout en Guyane. Mais très souvent, on a des représentations qui sont qu'en gros, il y aurait des zones homogènes d'un point de vue linguistique le long des fleuves et un grand plurilinguisme sur le littoral. Alors qu'en fait, là, on est à Kourou. Et finalement, si vous regardez, enfin, vous n'avez pas entendu tous les élèves de la classe, mais la plupart sont locuteurs d'une même langue, le Saramaka. Tout simplement. Et c'est pour ça que c'est très difficile de généraliser. On ne peut pas dire en Guyane, c'est comme ça, ou dans telle zone, c'est comme ça, parce que d'une classe à une autre, d'une école à une autre, on va avoir des configurations complètement différentes. Et j'ai oublié de dire que tous les films que je vais passer, c'est tiré d'activités en éveil aux langues et au langage, dont on parlera un petit peu après. Donc, deuxième exemple, une classe de CP, c'est la même activité, mais là, l'enseignante, elle les amène à parler un peu plus. Alors là, vous ne verrez pas le film, parce que vous entendrez juste les enfants, parce que la caméra partait un peu dans tous les sens. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, les élèves se répondent les uns aux autres et vont prendre conscience progressivement de leur propre pratique plurilingue et mettre en avant justement cet aspect important de ce que c'est que la compétence plurilingue. C'est-à-dire les passages d'une langue à l'autre, parfois les mélanges de langues. Dynamique temporelle, donc là, c'est une activité qui est basée, pour ceux qui connaissent, sur les activités proposées par le site, sur le site Elodil, hein, les activités d'éveil aux langues. Donc là, l'enseignante, alors c'était une clean cri, hein, il n'y avait pas encore les UPE2A. L'enseignante, là, elle a proposé, ils font une sorte de petite interview. Donc vous verrez qu'elle se souffle les questions à certains moments parce qu'elles ont oublié ce qu'il fallait dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est un petit peu comment elles ont appris les langues, comment ça se traduit dans l'espace. Et écoutez bien, il y en a une des deux qui parle une langue un peu particulière.
Moi, je parle portugais, le français et le créole. Moi, je parle espagnol, un petit peu le créole et le portugais et un petit peu l'espagnol. On parle. Bon. Quelle langue tu parles chez toi? Eh bien, comment tu as appris à parler? Eh bien, moi, j'ai appris à parler. Je suis en Haïti et eh bien, j'ai appris l'espagnol en train de parler avec ma mère et mon père. Et je parle le portugais parce qu'il y a des amis à moi. Et je parle le Paris parce que comme j'ai un petit peu des amis qui sont venus au Paris. Et toi, comment tu as appris à parler le brésilien et tout. Moi, j'ai appris parce que quand j'étais petit, maman parlait avec moi portugais et après comme ça j'ai appris à parler portugais.
Et comment tu as appris à parler le français?
Le français, j'ai appris à parler avec madame Adonai et à l'école.
Et bien, ok, merci.
Au revoir.
Bon, vous avez entendu la langue Voilà, elle parle le Paris parce qu'elle a la famille qui habite à Paris. Et à Paris, on parle bien évidemment le Paris. Bon, ceci dit, ça, c'est des choses qu'on peut exploiter aussi. Ça peut être discuté en classe avec les élèves. Alors, un dernier exemple, là, c'est plutôt sur les questions de dynamique spatiale. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'appareil La Fleur des Langues. C'est l'activité aussi d'Elodile qui est faite en continuité avec la précédente. Donc là, on est au collège Nonon à Cayenne, avec des élèves de 4e qui viennent de différents quartiers autour de Cayenne, le village chinois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des Chinois qui habitent dedans, c'est historiquement, voilà pourquoi on l'appelle comme ça, le village chinois, la rénovation urbaine, et ce sont des quartiers qui sont assez défavorisés d'un point de vue socio-économique, et donc avec cette classe-là, on a mis en place tout un tas de, de projets. Et notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu quelles étaient les langues en fonction des espaces. Et si vous passez, donc si on prend la fleur, alors on a transformé la fleur des langues en bouquet de fleurs des langues. Et si on passe en haut à gauche en allant vers la droite et en redescendant progressivement en bas à gauche, on va en fait de la famille jusqu'à la salle de classe. Les pétales correspondent aux langues parlées dans ces espaces-là. Donc famille, quartier, sur le chemin pour aller au collège, dans la cour de récréation, au CDI, dans la salle de classe. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de pétales qui diminue progressivement. Et dans la salle de classe, ils ont déclaré donc le français, évidemment, l'anglais, parce qu'il est enseigné comme langue vivante, et ils ont rajouté le ghetto. Alors le ghetto, en fait, c'est leur langue à eux en tant que jeunes, on va dire, où ils mélangent le français, le créole. Les enseignants me disaient, dans la classe, ils ne parlent qu'en français, mais ils déclarent parler le ghetto, et à l'écoute, effectivement, entre eux, ils sont souvent dans l'utilisation de ce mode, un petit peu, ce parler jeune, en fait, hein, c'est un parler jeune. Ça a été fait avec des élèves de quatrième. Honnêtement, quand je suis arrivée avec mes petites pétales, je me suis dit, ils vont me rire au nez. Ils ont adoré la séance. Vraiment, toutes ces séances-là, en général, ça leur permet de parler de leur plurilinguisme et de choses dans lesquelles ils sont compétents. Et rien que ça donne quand même des effets positifs dans les séances. Voilà, donc le plurilinguisme, ça constitue donc un enjeu pour l'école en Guyane, mais pas qu'en Guyane, hein, partout. Je pense en France hexagonale aussi, dans tout l'outre-mer d'une manière générale. Mais on peut considérer finalement qu'il est maltraité, du fait du regard qui est porté sur les langues, et en particulier les langues minoritaires. C'est-à-dire qu'en gros, on va considérer que les langues minoritaires, sans valeur marchande, finalement, ça renvoie à l'idée de... Enfin, les locuteurs de ces langues-là sont dans des situations de handicap linguistique. C'est une notion qui est assez ancienne, mais on l'entend encore beaucoup dans les discours, ou en tout cas, on a des réminiscences de cette idée de handicap linguistique. Certains vont parler de bilinguisme des riches, bilinguisme des pauvres. C'était un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure avec français, anglais, allemand, qui serait le bilinguisme des riches, entre guillemets, et puis les bilinguismes dans les langues minoritaires, qui serait le bilinguisme des pauvres. Donc les pratiques linguistiques plurilingues sont aussi considérées comme le signe d'une non-maîtrise des différentes langues, et on retrouve là aussi des idées qui sont proches de l'idée de semi-linguisme, c'est-à-dire en gros, que d'ailleurs les élèves intègrent assez souvent, hein, « je parle mal, je mélange ». Les enseignants vont souvent dire « ils parlent mal, il mélange ». Alors ça m'a amusé parce que ce matin, je viens juste de recevoir un mail qui émane d'un formateur qui me dit « Nous avons abordé le souci des élèves français langue de scolarisation pour lequel l'apprentissage de la lecture est très difficile parce qu'il ne serait pas possible de prendre appui sur leur langue de première socialisation. En effet, les collègues ont précisé que ces élèves révèlent un problème de structuration de leur langue première, ce qui rend difficile en conséquence l'apprentissage du français à la fois au sujet de la construction de leurs phrases et de l'insuffisance du lexique qu'ils sont capables d'employer dans leur langue. » Voilà, alors ça, c'est une idée très répandue, qui va aussi avec l'idée du mélange de langues, c'est qu'ils ne sont pas structurés dans leur langue première. Ça, c'est un peu dérangeant quand même, hein, parce que c'est-à-dire, ça renvoie à l'idée de non-structuration dans sa langue, ça pose problème. Alors, ce qu'il faut voir derrière, d'une part, c'est que, je veux dire, les enseignants ne sont pas forcément locuteurs des langues des élèves, donc je vois mal comment ils peuvent évaluer ces compétences-là, et qu'effectivement, dans des situations de contact de langue aussi intenses que celles qu'on a en Guyane, il y a des choses qui bougent, et le lexique en fait partie. Maintenant, si vous regardez la langue française, on a une partie du lexique qui vient de l'anglais ou de plein d'autres langues, et ça, ce sont des choses qui bougent assez fréquemment. Quand on analyse les productions des enfants, d'un point de vue grammatical, c'est tout à fait correct, si ce n'est les difficultés qu'aurait n'importe quel enfant en train d'apprendre la langue à cet âge-là. Hein, et ça, c'est un peu bloquant, parce que du coup, on va dire, comme ils ne parlent pas mal les langues, il ne faut pas leur enseigner des langues vivantes étrangères. Ça a été dit tout à l'heure, c'est plus compliqué avec eux, donc il faut simplifier ce qu'on va leur proposer. Donc il y a tout un tas de représentations comme ça qui sont qui ressortent finalement des discours qui sont tenus. Alors si on regarde un petit peu, si on essaye de comprendre un petit peu les raisons de cet échec par rapport au plurilinguisme, je veux dire, il est quand même admis aujourd'hui par la recherche, mais pas uniquement par la recherche, hein, je veux dire, même au niveau des institutions, que ce soit l'Europe ou même l'éducation nationale qui commence un petit peu à s'y mettre, c'est quand même admis que le fait que si on dévalorise les langues des élèves, il y a des effets négatifs sur leur réussite scolaire. Et que la non-valorisation de leur plurilinguisme et de leurs compétences plurilingues a des effets négatifs sur leur estime de soi et donc sur leur réussite scolaire. Et en fait, cette dévalorisation, elle commence par les hiérarchisations qu'on met derrière les langues. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper, alors là je parle d'un niveau un peu macro, on va dire, au lieu de s'occuper des langues en se disant c'est des langues parlées par les élèves, et qu'est-ce qu'on en fait ? On va mettre des statuts derrière les langues. Et si vous regardez en Guyane, bah, en fait on va retrouver, bon, français c'est normal, hein, langue officielle, langue nationale, ça c'est comme partout. Et puis après on va avoir un bloc qui est celui des langues de France, que je vais définir après. Donc les langues de France, c'est les langues qui sont reconnues par le ministère de la Culture et de la Communication. Et puis le ministère de l'Éducation nationale, lui, dans ces langues-là, n'en reconnaît qu'une comme langue régionale, c'est le créole guyanais. Et après, on a toutes les autres langues parlées par les élèves, celles qu'on a vues tout à l'heure, qui n'ont aucune reconnaissance, aucun statut, aucune place à l'école. Donc forcément, c'est inégalitaire. Alors, je ne remets pas en cause les statuts ou les dispositifs qui sont mis en place, mais quelque part, ça pose question. Si on ne fait rien pour certains élèves, ça veut dire qu'on est d'accord pour créer, pour avoir un système qui fonctionne de manière inégalitaire vis-à-vis de ces élèves-là. Alors juste, parce qu'on me l'a demandé hier... Pour rappel ou information, donc le terme de langue de France, c'est le terme qui a été employé par Bernard Cerchiglini en lien avec la charte des langues, la charte européenne des langues régionales et minoritaires qui n'a toujours pas ratifié mais qui a été signée par la France. Mais au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, ils reconnaissent bien 75 langues de France qui ont des droits culturels notamment. Alors ces langues de France sont des langues qui sont parlées traditionnellement sur un territoire d'un État par les ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population et différente de la ou des langues officielles de cet État. Elle n'inclut ni les dialectes de la des langues officielles de l'État, ni les langues des migrants. Donc, premier niveau, normalement, exclusion des langues de migrants. Mais on va nous dire que, en fait, il y a certaines langues de migrants, des langues dites historiques, qui, elles, finalement, peuvent être langues de France, et c'est le cas. Hein, donc on joue sur le mot traditionnellement et on nous dit le texte concerne les langues régionales ou minoritaires pratiquées traditionnellement, on dit aussi historique. Si cette notion invite à ne pas retenir les langues de l'immigration récente, elle invite au rebours à considérer du point de vue linguistique l'histoire de notre pays. Et donc la conséquence, en revanche, des ressortissants français issus parfois lointainement de l'immigration parlent encore italien, portugais, polonais, chinois par transmission familiale. Ces langues ne sont pas à retenir ici. Outre que rien ne les menace, nouveaux critères, elles sont enseignées comme langue vivante étrangère dans le secondaire et le supérieur. Donc en gros, on se dédouane pour ces langues-là en disant « c'est pas grave, elles sont enseignées comme langue vivante étrangère ». Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste des langues que j'ai présentées tout à l'heure, il y en a plein qui ne sont pas enseignées dans le système comme langue vivante étrangère. Le créole haïtien, ce n'est pas une langue vivante étrangère de l'éducation nationale, le sranan tongon non plus. Donc ça veut dire que peut-être certaines sont enseignées comme langue vivante étrangère, mais il y en a d'autres, elles n'ont vraiment aucune place pour le coup. Alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Guyane, il y a aussi un problème avec les langues vivantes étrangères, c'est qu'il y a des enfants qui sont effectivement locuteurs d'anglais, par exemple, ou de portugais, mais de portugais du Brésil et d'anglais du Guyana. Et ils se retrouvent en difficulté dans les classes en LV, quand ils apprennent l'anglais et quand ils apprennent le portugais, parce que les variétés qu'ils parlent ne correspondent pas aux standards qui sont enseignés. On ne prend pas en compte finalement cette diversité, cette variation qui existe. Et c'est quand même assez dramatique pour les enfants, parce que c'est l'endroit où ils devraient normalement être les plus compétents et où finalement ils se retrouvent aussi en échec scolaire. Alors, ces hiérarchies, elles vont avoir quoi comme conséquence en termes de dispositifs ? On a le créole guyanais, je l'ai dit, qui est reconnu comme langue régionale par le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, comme toute langue vivante régionale, il bénéficie des 3 heures par semaine des LVR, option au bac, concours spécial pour les enseignants, CAPES, etc. Et les classes bilingues français-créole. Donc les classes bilingues français-créole, ce sont des classes bilingues à parité horaire. Il y en a une douzaine, je crois, à l'heure actuelle, sur le département. Donc ça, c'est pour le créole guyanais. Après, pour les langues régionales ou minoritaires, les autres langues de France que j'évoquais tout à l'heure, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif des intervenants en langue maternelle et qui est expérimental depuis à peu près 15 ans maintenant. C'est-à-dire que expérimental, ça veut dire que s'il faut faire des économies, ce dispositif-là, il risque de passer à la trappe. Et alors, on n'est pas du tout dans le même principe que le bilinguisme français-créole à parité horaire. Pour ces langues-là, en fait, c'est en gros 3 heures par semaine dans le meilleur des cas. Et surtout, c'est focalisé uniquement sur l'école maternelle. Donc je parle de bilinguisme de transition parce que l'objectif, évidemment, pour ces élèves, c'est de bien les accueillir à l'école, mais qu'ils apprennent le français. L'objectif, c'est pas qu'ils deviennent bilingues. L'objectif, c'est de faciliter le passage. Alors, c'est pas une remise en question du dispositif qui apporte des choses très, très, très utiles aux enfants. C'est bien qu'ils puissent être accueillis dans leur langue. Mais après, on voit bien qu'on est quand même dans une perspective, finalement, qu'ils aillent uniquement vers le français. Et pour les langues de mobilité non historique, bah là, on est clairement dans l'apprentissage uniquement du français, dans des dispositifs compensatoires, et il n'y a rien du tout en termes de valorisation de leur langue, en tout cas dans ce qui est proposé en termes de dispositifs. Je disais tout à l'heure, je serais peut-être un peu moins optimiste. Effectivement, les choses bougent, les choses changent, mais le problème, c'est qu'elles changent toujours avec des hiérarchisations. Et j'entends énormément de choses positives vis-à-vis du plurilinguisme à l'heure actuelle, mais beaucoup sur les langues de France et très peu sur les langues de migration. Et pourtant, ils sont là, les élèves, ils parlent aussi leur langue, leurs compétences, elles sont là, et l'école, elle n'en fait pas grand-chose à l'heure actuelle. Il y a des choses qui existent. Alors derrière tout ça, il y a des... effectivement, il y a l'idée que ces hiérarchisations, elles vont créer des inégalités entre les élèves, hein, puisqu'il y a certains élèves qui bénéficient de dispositifs et d'autres non, selon des modalités variées. Et du coup, ben, quand on choisit une langue, forcément, on en exclut une autre. Choisir une langue, c'est en exclure une autre. Et derrière, il y a peut-être des enjeux de pouvoir qu'on peut questionner. Je reprends la deuxième citation ici, hein, l'éducation monolingue telle qu'elle est dispensée par le groupe linguistique dominant de l'État, et il y a plusieurs types de domination, pas seulement au niveau de l'État, joue un rôle important en s'assurant que les langues des communautés linguistiques minoritaires reçoivent une éducation qui dévalue leur plurilinguisme et leurs ressources linguistiques. Donc ça, c'est un des enjeux, un des questionnements qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de dispositifs compensatoires pour les migrants? Alors, effectivement, les UPE 2A ont été évoqués tout à l'heure, et c'est sûr que les élèves en UPE 2A, ils sont bien accueillis, ils bénéficient effectivement d'un suivi qui peut leur permettre de mieux réussir à l'école. Après, si on regarde dans les textes, leur plurilinguisme, il n'est pas souvent évoqué quand même. Alors, on reste quand même dans l'idée du focus sur le français uniquement. Là, je prends une lettre de cadrage pour les UPE 2A. Objectif, favoriser l'intégration linguistique des élèves. L'enseignant il doit être du premier degré spécialisé dans l'enseignement du français, langue de scolarisation. Il est là pour enseigner la langue française. La classe ordinaire, on va nous dire immersion, on parle pour ces élèves-là d'immersion linguistique et d'imprégnation de la langue. Mais globalement, à aucun moment, on va dire qu'on va faire quelque chose pour le plurilinguisme. Alors, j'ai quand même mis en bas les pratiques des enseignants. C'est qu'effectivement, dans les discours institutionnels, ça n'apparaît pas, mais assez souvent, les enseignants, d'eux-mêmes, vont mettre en place un certain nombre d'activités, mais qui comme c'est quelque chose qu'ils décident de faire de manière autonome, finalement, il n'y a pas ces pratiques-là, elles ne s'étendent pas. Elles ne sont pas didactisées, elles ne sont pas formalisées. Et là, il y a vraiment un questionnement à avoir à partir des pratiques et peut-être des bonnes pratiques dans ce domaine. Alors, derrière ces idées-là, il y a aussi le fait que, en dehors de la non-prise en compte du plurilinguisme, on est quand même souvent aussi dans l'idée qu'il faut séparer les langues. Je parlais tout à l'heure du regard vis-à-vis du mélange de langues, et c'est vrai qu'on a tendance, et particulièrement dans le système français, à vouloir à tout prix cloisonner tout ce qui relève de l'enseignement des langues. Chacun doit rester à sa place de ce point de vue-là. Donc il y a vraiment une constante, c'est que la séparation des langues, c'est le principe organisateur de l'enseignement, et les deux langues, elles vont constituer finalement deux solitudes, hein, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le cerveau, hein. Ça correspond pas du tout à la réalité. Et ça, c'est intégré par les enfants. Je vous ai mis ici un petit dessin d'un élève où on lui a demandé de montrer comment ça se passait dans sa tête pour les langues, et vous voyez bien qu'il montre chaque langue a une couleur bien définie. Chaque langue est séparée par une barre, donc ça veut dire qu'ils intègrent totalement cette idée de la séparation des langues. Et je voudrais vous montrer un petit peu les discours qu'il peut y avoir derrière ça. Alors, c'est un discours un peu extrême, là c'est une psychologue scolaire qui était en Guyane qui est repartie, qui dit « L'utilisation de plusieurs langues en alternance selon les locuteurs favoriserait une démultiplication de personnalités qui, comme des vêtements, seraient portés selon les situations de communication dans lesquelles se trouvent les personnes. On peut même supposer que cette alternance de codes linguistiques influencerait la personnalité, qui deviendrait alternante et instable. Voilà, donc ce sont des représentations qui existent encore aujourd'hui. Hein. Évidemment, je ne dis pas que c'est la majorité, mais ça pose quand même question. On a quelqu'un qui est dans une position d'évaluation des difficultés des élèves et qui va mettre derrière le bilinguisme ce type de représentation. Alors, de manière moins extrême, on va retrouver aussi parfois des discours sur cette question de la séparation des langues dans les discours institutionnels. Donc là, je prends des exemples d'inspecteurs. Le multilinguisme n'est pas un handicap ou un problème si les langues des locuteurs sont clairement identifiées et si les adultes ont des attitudes claires lorsqu'ils parlent aux enfants. Les enseignants représentent le pôle français de la situation multilingue et ils doivent s'y tenir. Donc derrière ça, il y a l'idée que vous êtes là pour enseigner le français, on va le voir après. Deuxième exemple, nous devons séparer les langues, le français à l'école, les langues maternelles dans la famille, afin de ne pas saboter la bilingualisation. Troisième exemple, ma position est claire, il rit, les enseignants ne sont pas payés pour ça, c'est-à-dire parler dans les langues des élèves, c'est tout, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour leur apprendre le français. Donc chacun à sa place, chacun dans sa langue, et on va s'apercevoir que les enseignants, du coup, parfois, ils ont aussi ce type de discours, ce qui est normal. La hiérarchie tient ce discours-là, moi je le reprends. Et on va voir aussi que ça a des effets aussi dans les pratiques. Donc typiquement, si je prends l'exemple de la classe bilingue français-créole, dans le projet, ce qu'on peut lire, c'est que le français et le créole guyanais doivent être clairement distingués par différents moyens temporels et spatiaux. Pas d'utilisation du créole quand le français est la langue de la leçon et pas d'utilisation du français quand le créole est la langue de la leçon. Et donc ça se traduit par une organisation spatiale dans les classes, c'est-à-dire qu'il y a l'espace pour le français, une grande partie en général, et l'espace pour le créole. Donc on nous dit, nous ne pouvons pas mettre le créole et le français dans les mêmes espaces, nous devons les séparer afin de montrer la différence entre le monde créole et le monde français. En fait, les idées qu'il y a derrière ça, c'est vraiment la peur du mélange de langues, hein. C'est la peur de l'interférence, la peur du mélange de langues qui va amener ce type de représentation-là. Alors les enseignants, qu'est-ce qu'ils nous en disent ? Là, je vais prendre des enseignants de différents dispositifs parce que ça ne touche pas que les classes bilingues. Donc l'objectif est de faciliter l'acquisition parallèle des deux langues avec un minimum d'interférence entre elles. Donc classe bilingue, dispositif intervenant en langue maternelle, là c'est un ILM qui parle. À la maison, c'est Monday, donc avec moi, ILM. Intervenant en langue maternelle, c'est Monday, mais avec l'enseignant, c'est lundi. On sépare les espaces, les langues. Classe ordinaire, je les punis quand ils parlent leur langue, car je leur ai dit qu'ils n'étaient pas autorisés à parler leur langue dans la salle de classe. La punition est qu'ils doivent copier un texte en français. Alors, ça, je l'ai pas dans... ça ne ressort pas dans les entretiens, ça ressort dans les questionnaires écrits anonymes. Maintenant, je vais être tout à fait honnête. Ça fait 20 ans que je travaille sur le terrain guyanais. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de gens qui tenaient ce discours-là. Dans les dernières enquêtes, on est à 7% de personnes qui sont encore dans une perspective d'interdiction de la langue. C'est peu. C'est encore trop, selon moi. Mais les choses ont changé. En tout cas, les discours ont changé de ce point de vue-là. Je ne sais pas si les pratiques ont tant changé que ça, mais en tout cas, les discours ont changé. Alors, toujours sur les pratiques, donc là, on prend les affichages. Donc, on voit bien qu'effectivement, dans les affichages, il y a des couleurs pour chaque langue, soit on va utiliser du surlignage, soit des couleurs différentes. Mais en même temps, si on regarde ces affiches, on voit aussi qu'il y a la séparation n'est pas aussi nette que ça, puisqu'on va utiliser à gauche du rouge pour montrer que les deux mots, c'est les mêmes mots. Donc on commence à créer un peu de lien. Et puis dans l'exemple qui est à droite, il y a un reflet, on ne voit pas très bien, on a le « qui apparaît à l'intérieur d'une phrase en créole. Bon, alors évidemment, il est en rouge avec des guillemets, mais en tout cas, on voit qu'il y a des espaces de rencontre entre les langues, même si institutionnellement, normalement, elles devraient être complètement séparées. Et donc, c'est à ça que je voudrais en venir maintenant, si j'y arrive. Voilà. C'est justement aux pratiques, transgressives entre guillemets, mais on a bien vu qu'il y avait des discours et des textes qui disaient tout un tas de choses. Et en fait, quand on va dans les classes, ce qui moi m'intéresse le plus, c'est on s'aperçoit que finalement, les enseignants ils mettent en place tout un tas de pratiques qui vont dans le sens du plurilinguisme des élèves. Donc là, je reprends le concept de Garcia qu'elle qualifie de translanguaging. C'est en français, on dit souvent alternance codique. Sinon, vous avez peut-être entendu le terme de code switching. Le nouveau terme à la mode, c'est translanguaging. C'est l'idée que ça, il y a vraiment un lien entre les deux. Donc elle nous dit, étudiants et enseignants acceptent et adoptent les pratiques de translanguaging qui leur permettent de fonctionner de manière efficace, d'éduquer et de devenir éduqués. Et donc c'est la capacité des locuteurs plurilingues à faire la navette d'une langue à l'autre en traitant les langues qui forment leur répertoire comme un système unique. Donc ça va complètement à l'encontre, on est bien d'accord, du cloisonnement des langues tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Alors je vais montrer des exemples de translanguaging des élèves et des enseignants pour vous montrer finalement différents cas de figure parce que c'est, encore une fois, c'est très difficile de généraliser là-dessus. Alors le premier cas, c'est on va à Patou, c'est une classe de CP. Donc à Patou, c'est sur le Maroni, à l'ouest. Donc c'est un cas un peu particulier. L'enseignante était T1 et on lui a donné une classe de primo-arrivant, de 25 élèves primo-arrivants en classe de CP. C'est-à-dire c'est des élèves qui n'avaient jamais été scolarisés, qui ne parlaient pas un mot de français. Voilà, donc elle s'est retrouvée dans cette classe-là. Alors pour comprendre quand même, ces élèves-là, c'est des élèves qui viennent majoritairement des Kampou. Les Kampou, c'est des petits villages qui sont le long du Maroni, donc qui ont vécu dans un environnement où a priori il n'y avait vraiment aucun contact ni avec le français et pas de forme de socialisation scolaire telle qu'on les attend à l'école. Et pour la petite histoire, certains d'entre eux ont parfois 3 heures de pirogue le matin pour arriver à l'école. Donc c'est des conditions quand même assez difficiles et les élèves sont souvent fatigués. C'est pas très simple. Donc voilà. Donc elle est dans cette classe. Donc là on n'est pas en début d'année scolaire. Elle veut travailler avec elle sur des images, sur du lexique. Et donc là, le translanguaging, il est finalement, il est normal. Hein. Les élèves, ils connaissent pas les mots en français. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser le mot dans leur langue. Alors en plus, ça tombe bien, guana, ça ressemble à iguane, on pourrait jouer un petit peu là-dessus. Mais là, on voit que l'enseignante, finalement, elle n'exploite pas la proposition de l'enfant. Elle n'interdit pas, hein. Elle n'est pas du tout dans cette perspective-là, mais elle n'exploite pas du tout la production de l'enfant en faisant du lien, en validant, même avec un feedback positif, parce que finalement, elle a posé une question, ils ont répondu à la question, c'est bien. C'est ça, on pourrait déjà le valider. Et elle revient assez rapidement sur le français et ensuite on tombe à chaque image finalement dans du repeat after me. Hein. On dit iguane, répéter, etc. Donc ça c'est un premier exemple, mais c'est un cas où effectivement l'enseignante, elle arrivait sur le terrain, elle parlait pas un mot de la langue des élèves, elle savait pas trop comment réagir quand ils utilisaient leur langue. Donc on va voir d'autres exemples. Donc certains enseignants, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils n'ont pas la compétence dans la langue, ils vont exploiter finalement les compétences qui existent autour d'eux. Donc les compétences, elles peuvent être chez des élèves qui peuvent traduire, ou alors, par exemple, ça peut être l'ATSEM, même si ce n'est pas tout à fait son rôle. Et là aussi, on peut se questionner sur la place des ATSEM à l'école. Alors à gauche, on est toujours à Patou dans une classe de CM1. Et donc là, c'est une séance de rugby. Et l'enseignant essaye assez difficilement de leur faire comprendre le principe de la passe en arrière. Voilà, donc ça marche pas très bien. Et donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon? On est obligé de courir plus, on n'a pas le droit de faire les passes, donne, on n'a pas le droit de faire les passes devant, pas le droit, d'accord, bon, dis-lui en taki-taki. Voilà, parce que là, il sait plus comment s'en sortir, la séance dure, voilà, donc l'élève traduit, et puis là, finalement, les autres élèves comprennent, et la séance, elle peut continuer. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu d'utilisation de la langue, sa séance, elle n'aurait jamais été au bout. À droite, c'est un exemple la personne qui a fait l'enquête est dans la salle, Laurie Nelson. Avec l'enseignante, là, elle fait le choix au moment de sa séance, alors là, on est en petite section, de travailler avec l'ATSEM à côté d'elle. Et donc l'ATSEM va parfois intervenir pour faciliter la compréhension des consignes. Alors, en petite section, en plus, vous imaginez, les 3/4, enfin, 100% des élèves, là en tout cas c'était à Papa Icheton, ne parlent pas un mot de français quand ils arrivent à l'école. Hein. Donc l'enseignante leur montre une orange, qu'est-ce que c'est? Après, elle les autorise à le dire en aloukou, s'ils savent le dire en aloukou. L'ATSEM va poser la question, qui sait comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Et là, la réponse, elle est donnée, si vous le voyez, dans quelle langue? Par l'élève, en français. Donc en fait, c'est la question qui pose problème et que parfois ils ont le lexique, mais la question pose problème. On va en avoir un autre exemple tout à l'heure. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que là, l'ATSEM, elle va plus loin parce qu'elle, elle a une connaissance que l'enseignante n'a pas. C'est qu'elle sait que dans la langue des élèves, orange, c'est un mot différent pour la couleur et c'est un mot différent pour le fruit. Et donc, elle va pousser un petit peu plus loin et les amener à comprendre que, en français, l'orange, c'est la couleur et le fruit. Alors, ça pose question, hein, c'est-à-dire qu'on peut questionner du coup le rôle des ATSEM parce que elle est plus tout à fait dans ce qui est attendu en général, mais en même temps elles ont des compétences pour la plupart que les enseignants n'ont pas. Alors, troisième cas, l'enseignant parle la langue des élèves. Donc là c'est toujours à Papa Echeton en petite section, toujours la transcription de Laurie. L'enseignant il va utiliser assez fréquemment la langue pour des petits problèmes de gestion du quotidien, on va dire. Donc, vous savez ce qu'elle a mangé, vous savez ce qu'elle a mangé, qu'est-ce que tu as mangé? Donc là, il lui pose la question en engue. Qu'est-ce que tu as mangé? De la pâte à modeler, jaune. Et donc là, il lui dit en engue, va te laver la bouche. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'exemple en dessous. Donc, on est dans une séance où il travaille sur les parties du corps, un truc assez classique. Donc, son objectif, il est avant tout lexical. Éventuellement le groupe nominal, la bouche, le nez, des choses comme ça. On est en petite section, hein, donc il travaille vraiment sur un élément de la langue. Donc il pose la question aux élèves, donc la bouche, montre-moi la bouche, et il fait comme ça. La bouche, montre-moi la bouche. L'élève, il le regarde, il fait, voilà, il fait comme ça. On est dans une situation où on ne parle pas la langue des élèves, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'a pas compris la question, on ne sait pas si c'est parce qu'il ne connaît pas le mot bouche, qui est l'objectif de la séance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'enseignant? Il reprend le groupe nominal qui est l'objectif en français et il l'insère dans une structure en engue. Donc là, on est clairement dans du mélange de langues, ce qui fait peur à tout le monde. Pourtant, l'objectif, du coup, il est atteint. Parce qu'effectivement, l'enfant, juste après, il montre la bouche. Donc, c'était bien la question qui posait problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais apprendre l'interrogative en français, mais peut-être qu'il faut procéder par étapes, et si on a la possibilité d'avancer avec ça, autant passer par là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enseignant va utiliser une double validation, une fois en dengue, une fois en français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, là où on entend le plus le dengue sur le marroni, c'est plus pour dire des choses du type « ferme ta bouche ». Hein, donc là aussi, il faut travailler en termes de formation. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en termes de formation, on travaille sur le fait que si c'est uniquement pour utiliser la langue, pour dire des choses de ce type-là, dans ce cas-là, il vaut mieux rester sur le français. En tout cas, ne pas hésiter à l'utiliser de manière positive. Alors, je parlais tout à l'heure des classes bilingues. Hein, donc, vous rappelez le projet de classe bilingue. Mais en fait, que nous disent les enseignants? Dans ma classe, on retrouve ça souvent, notamment le mélange entre le français, le créole, le français et le brésilien, et puis d'autres langues encore. Comme par exemple, dans ma classe bilingue, on va mélanger le français avec le créole. Les enfants ne sont pas les seuls à utiliser leur langue. Nous aussi, on le fait tout le temps. J'utilise le créole tous les jours, dans les cours de français, dans les cours de créole. Donc, on est vraiment complètement à l'opposé, finalement, de ce qui était dit au niveau des discours institutionnels. Qu'est-ce que ça donne dans la classe ? Là, vous voyez avec les couleurs, hein, en rouge on a le créole, en bleu on a le français, effectivement, on passe d'une langue à l'autre. Là, c'est une séance sur les heures, dans une séance qui est censée être dans le temps créole, on va dire. Mais en fait, l'enseignante, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle passe tout le temps d'une langue à l'autre. Donc ce translanguaging, ce n'est pas uniquement les élèves, c'est aussi les enseignants. Et le décloisonnement, ils le font vraiment de manière spontanée dans les classes. En dernier exemple, là on va dans un collège à Sinnamary sur le littoral. Et là c'était plus axé sur le travail de groupe en fait. Et ce qui, en fait, la personne qui a fait cette enquête-là, Didier Coltin, lui ce qu'il voulait montrer, c'était que, enfin ce qu'il a observé, c'est que quand les élèves étaient dans des groupes où on leur interdisait d'utiliser leur langue, on les obligeait à parler le français, ils se retrouvaient parfois en difficulté pour aller au bout de la tâche. Alors que quand on ne donnait pas de consignes particulières et qu'on ne regardait pas cet aspect-là, ça débloquait plus la parole, et que les groupes les plus plurilingues qui avaient des langues en commun étaient ceux qui étaient les plus à l'aise finalement dans les objectifs attendus. Et là je prends quelques exemples, mathématiques, alors en EPS là ils sont en train de faire, comment on appelle ça, les figures acrobatiques là. L'acrosport, voilà. Et donc là, il compare, en fait, je ne peux pas donner tous les exemples, hein, mais il compare finalement plusieurs groupes et il se rend compte que le groupe qui a choisi d'utiliser le créole dans lequel il communique plus rapidement, plus facilement, bah, réussit beaucoup mieux l'activité. En mathématiques, bah, là, ils vont parler en créole et en français. Et puis un dernier exemple, là, on est en grammaire. Voilà, ils font un exercice de grammaire sur l'adjectif et ils vont parler en créole pour résoudre la tâche qui est demandée. Et, effectivement, l'objectif, c'est qu'à terme, ils arrivent à le dire en français, tout ça. On est bien d'accord. Sauf que il y a des moments, peut-être, quand on est dans le non, quand on n'est pas en français, quand on est dans d'autres disciplines, si ça permet aux élèves d'acquérir les notions, de mieux réussir, hein, passer par la langue, bah, ça peut être un moyen de les remettre sur la route de la réussite, on va dire. Il ne faut pas en avoir forcément peur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils atteignent ces objectifs-là aussi en français, mais il faut peut-être passer par là pour qu'il y ait, pour améliorer un petit peu les choses et peut-être arrêter d'avoir peur de l'utilisation de ces langues par les élèves. Donc même si le plurilinguisme n'est pas reconnu officiellement comme un atout pour enseigner et apprendre, on voit bien que les enseignants, les élèves, ils vont utiliser au quotidien toutes leurs ressources pour mieux communiquer, on en a vu des exemples, mais aussi pour apprendre ou pour enseigner. Hein, donc ça va être vraiment une ressource. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout formalisé, ça. C'est presque fait en cachette dans certains cas. Puisque finalement, dans les discours, ça continue un petit peu d'être interdit. Alors après, il y a des variations selon les dispositifs, selon les cas de figure. Donc ça mériterait vraiment de regarder tous les différents cas de figure et de voir un petit peu ce qui en ressort. Donc là, je termine cette partie. J'en suis où, là, en temps ? Ça va ?
50 minutes, là.
Je peux arrêter
Oui, ça va.
Je peux conclure là-dessus, ou alors j'ai les exemples sur la formation. C'est toi.
Je crois que c'est important, les exemples sur la formation.
D'accord. Mais ce sera juste quelques petits exemples. Voilà, donc l'idée, c'est de voir comment aller vers une éducation multiple et multilingue au sens d'Ophélia Garcia. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que l'objectif, si on va vers une éducation plurilingue, c'est pas de remplacer une éducation bilingue avec la séparation des langues, mais bien de remplacer une éducation plurilingue où on accepte de faire la navette entre les langues, hein, de passer d'une langue à l'autre, et où c'est le mode de fonctionnement de l'école. Évidemment, ça nécessite de lever un certain nombre d'obstacles, notamment en termes de représentation. Voilà, donc, en fait, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, même si c'est fait d'une manière différente, les films et tout ça, ce sont des outils que nous, on utilise en formation. Hein, les films, les exemples, sont des outils qu'on utilise en formation, justement, pour amener les étudiants à réfléchir à ces questions-là. Alors, on va un petit peu plus loin aussi dans la formation. On travaille... faut pas se leurrer quand même, il y a des difficultés aussi qui sont liées au plurilinguisme. Alors moi j'essaie de travailler sur l'atout du plurilinguisme, mais évidemment il y a des choses qui peuvent poser problème. Je vais vous en donner quelques exemples et pour vous montrer un peu la manière dont on utilise ça. Ici on a le système vocalique, donc en haut du nengue, en bas du français. Et donc on voit bien qu'on n'a pas une correspondance exacte entre les deux systèmes vocaliques. Donc forcément, bah, le classique U qui existe dans quasiment aucune langue, bah, ils vont aller chercher au plus près. Le E aussi pose problème, donc le E souvent va être O. Voilà, on retrouve des choses assez habituelles. Donc là, dans les exploitations en termes de formation, ce qu'on dit, c'est on a un tableau qui existe sur toutes les caractéristiques phonologiques des langues de Guyane. On dit, bah, au moins quand vous commencez l'apprentissage de la lecture au CP, essayer de commencer par des sons qui existent dans leur langue, par exemple. Voilà, de ne pas partir sur des sons qui n'existent pas. Ça, c'est vraiment des petites choses basiques en termes de connaissances. Et il n'y a pas besoin d'être linguiste pour le faire. Les outils sont là, ils peuvent les exploiter. Donc ça, c'est un premier exemple de type de comparaison de langue. Un autre exemple, alors là, c'est un peu plus complexe, phonétique, phonologique. L'idée n'est pas de résoudre tous les problèmes d'apprentissage, mais au moins de montrer que finalement certaines erreurs des élèves, alors c'est très marquant au niveau phonétique, phonologique, peuvent avoir des conséquences dans ce qu'ils produisent. Et ça pose aussi la question ici, là on est sur des exemples du collège, de ce qui se fait en éveil à la conscience phonologique dès la maternelle. C'est-à-dire qu'on voit des erreurs au collège qui peut-être n'apparaîtraient pas si on prenait en compte les caractéristiques des langues des élèves un peu plus tôt pour résoudre ou pour anticiper ces problèmes-là. Donc en fait, en français, pe et be sont des phonèmes qui sont distincts. Hein, ça permet de faire bon et pont, par exemple. Dans la langue qui est ici le kalinya, pe et be, ils existent, mais de manière complètement indifférenciée. C'est-à-dire que je peux dire sambula, sampula. C'est le même mot, en fait. Et du coup, collège, rapide, rapécé, rabaissé, à l'écrit, mais de manière complètement aléatoire, en fait. Et donc là, on voit bien que c'est l'impact de la langue qui va jouer, mais que ça aurait peut-être pu être traité un peu plus tôt. Alors, c'est pas, ils les entendent, les sons. C'est juste que pour eux, la différence entre eux n'est pas significative. Un exemple au niveau grammatical, sur l'adjectif, tu laves les affaires sales, ça donne sale, chose là c'est en Ngetongo, sale chose, un serpent jaune, jaune, serpent, donc là le classique, hein, on n'est pas sur le même ordre des mots, je pourrais vous en donner plein d'exemples, et ça donne, alors c'est très joli hein, ceci dit, mais ça donne une blanche feuille. Mais là, je prends cet exemple-là, mais effectivement, on va retrouver de manière récurrente des emplois d'adjectifs qui sont a priori liés aux langues premières des élèves. Donc là, encore une fois, hein, je veux dire, on peut pas. Je vous avais vu le nombre de langues qui sont parlées. On peut pas voir de manière détaillée en formation l'ensemble des caractéristiques de toutes les langues de Guyane. On en voit quelques exemples. On essaie de donner les grandes lignes ou les cas les plus problématiques en fonction des données qu'on a. Par contre, ce qu'on dit, c'est au moins essayer d'avoir une curiosité vis-à-vis de ces langues. Si aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont des grammaires, d'aller regarder. Il y a la grammaire du Nengue. Si vous enseignez à des élèves qui sont locuteurs de Nengue, prenez la grammaire du Nengue qui, en plus, propose des comparaisons avec le français pour essayer de voir, de comprendre les erreurs de vos élèves. Et aussi de dire aux élèves, c'est normal que tu fasses des erreurs parce que dans ta langue, ça fonctionne comme ça. Et on peut aller même plus loin, faire des activités de comparaison de langue pour que les élèves prennent eux-mêmes conscience de la différence entre le français et leur langue première. Bon, je vais passer ça. Voilà, donc l'autre aspect de la formation, on va faire une activité en fait en début d'après-midi justement sur les questions de comparaison de langue. Donc tout ce qui est introduction, l'autre aspect de la formation qu'on fait, c'est autour de l'éveil aux langues et au langage. Alors on a aussi des choses un peu plus de type FLS, hein, enseignant contexte plurilingue, les questions d'interculturalité, ça rentre dans la formation. Tout ce qui est introduire le plurilinguisme dans la classe, bon, on part sur des activités d'éveil aux langues assez classiques et puis les petits films que je vous ai montrés. Mais ce qui nous paraît, nous, plus intéressant, c'est d'aller plus loin et de travailler sur les compétences métalinguistiques et notamment sur les comparaisons de langues. Et on va en voir un exemple avec une activité que vous allez vous-même faire cet après-midi.